Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Et voici le rendez-vous des tchatcheuses en direct. Elles sont de retour, nos langues bien pendues, comme chaque mois. Chez 7 milliards de voisins, je reçois trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix et puis tout ce qui les inspire aussi après la coupure de l'été. Dans le studio donc aujourd'hui, une voisine de chez nous, Samira Ibrahim. Bonjour Samira.
Bonjour
Emmanuel. Vous collaborez à la chaîne Monte Carlo d'Oualia du groupe France Média Monde. Vous avez travaillé au Liban, ce qui est tout à fait normal puisque vous avez une mère égyptienne et un père soudanais. Voilà, à peu près.
Je suis née à Beyrouth aussi.
Exactement. Paola Martinez, hola.
Hola Emmanuel.
Notre tchatcheuse journaliste chilienne et notre voisine norvégienne, Vibeke Knupp-Rachlin.
Hey.
Hi. Pardon. Hey, c'est en finlandais. Correspondante pour le journal Aftenposten, le quotidien norvégien. La rentrée, ça vous inspire quoi, les filles, à toutes les trois? Bonne mine, mauvaise humeur?
Non, s'organiser. Je pense au mot s'organiser.
Ça, c'est bien une réponse de femme.
Organisation.
Organisation. Oui. Projet en vue. Ouais. J'aime bien ça aussi.
S'installer parce que pour moi, tout change.
Ah, bon, vous venez de déménager, Vibeke, c'est pour ça. Et s'installer, c'est important dans tous les sens du terme. Et quant à vous, les voisines, si vous nous écoutez chez 7 milliards, que vous êtes journaliste dans votre pays, que vous souhaitez nous faire partager, pourquoi pas un coup de cœur ou un coup de gueule, appelez-nous. Tout est ouvert dès maintenant, la ligne téléphonique 33 1 84 22 71 71. Vous pourrez agir, pourquoi pas, au propos des tchatcheuses. On va débattre, on va discuter, on va tchatcher. Quant à vous, les voisins, évidemment, tous vos messages sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on exclut personne. Facebook, Twitter, je ne manquerai pas de relayer tous vos commentaires.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir.
Qu'est-ce que t'as ?
Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Il n'y a pas qu'une seule solution.
Toi, tu dis quelque chose et tout le monde t'écoute.
Les tchatcheuses, elles parlent de tout.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Samira Ibrahim, Paola Martinez, Vibeke Knupp-Rachlin, faut-il parler du burkini ?
On est obligé.
Tout le monde en parle, mais moi je déplore ce nom. Je déplore vraiment.
Ah, on commence.
Ce nom.
Oh là là, alors on revient au point de départ alors.
Eh oui, parce que c'est un nom horrible quoi. C'est compliqué d'en parler parce que on a plutôt envie, quand on parle de plage, de vacances, d'avoir des corps épanouis, bronzés,
oui, de faire des commentaires sur l'huile solaire. D'accord.
Et puis, profiter de la vitamine D,
oui,
qui est très importante.
Bon, là, la politique a rattrapé la plage et la géopolitique
plus. Mais c'est vrai que c'est un nom un peu compliqué parce qu'il emprisonne à double tour les femmes qui le portent aussi, bien que je préfère que, comme je l'ai dit,
peut-être revenons quelques années en arrière avec vous, Vibeke Knupp-Rachlin, parce que en Norvège, il y a eu une polémique il y a plusieurs années.
Oui, en fait, il n'y a pas plusieurs années, c'était cet été aussi, mais tout à fait au début de l'été. Et ça venait d'un recteur d'une école dans le nord de la Norvège qui, tout d'un coup, a décidé d'autoriser le burkini pour des très petites filles pour qu'elles puissent suivre les cours de natation. Et là, ça sera mon premier coup de gueule. On commence très fort parce que je ne vois aucune raison d'autoriser le burkini dans des bassins des écoles norvégiennes.
À commencer par des raisons religieuses, d'ailleurs.
Ben là, en
l'occurrence... Aucune justification.
Non, et puis, je vais dire, c'est évident que c'est une raison religieuse. Mais en Norvège, il y a aussi un autre aspect... peut-être un peu particulier aux pays nordiques, c'est que ce vêtement, comme le voile, le hijab et tout ce qu'on veut, c'est aussi considéré comme une opinion. Et donc, ça fait partie de la liberté d'expression. Et comme la liberté d'expression est total en Norvège, il n'y a aucune restriction, eh bien, il faut les laisser, les pauvres petites, sinon elles n'apprendront pas à nager. Et moi, je dis non.
À 3-4 ans, est-ce qu'on a une opinion?
D'abord,
c'est exactement ce que je voulais dire, oui. À 3-4 ans, on n'a pas d'opinion et je pense que l'opinion est celle des parents. Et
évidemment,
comme elles n'ont pas la liberté de choisir, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a jugé bon de ne pas les mettre de côté et leur permettre. C'est toujours très, très compliqué. Moi, j'ai toujours pas de... Mon avis change tout tous les jours. Enfin, je sais pas. J'estime que les gens qui ont un avis arrêté sur toutes ces questions ont beaucoup de chance.
Mais plusieurs années, parce que la ville d'Oslo, c'était quoi, en 2009, a décrété publiquement que le burkini était parfaitement toléré dans les piscines publiques.
Oui, mais ça n'a pas été vraiment suivi des faits. Par contre, la Norvège se distingue encore une fois, puisque, par exemple, le niqab est autorisé. Et j'en ai vu plusieurs cet été, j'étais en Norvège, il y en avait une, on ne voyait que les lunettes. C'est tout, on ne voyait absolument rien d'autre. Et les gens ont l'air de trouver, oui, c'est normal, il faut les laisser, etc.
Et là, ça pose vraiment problème de sécurité, quoi. Enfin, oui, franchement, on voit que les yeux, ça pose vraiment
un problème de sécurité. Non, mais on ne voyait pas les yeux, on ne voyait que les lunettes. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'arrêter. Je veux revenir sur cette histoire d'école. Pour moi, ce n'est pas possible d'accepter ça, parce que si, je suis d'accord, moi, qu'on accueille tous les réfugiés, tous les immigrés qu'on peut accueillir, c'est très bien. Mais je considère que dans ce cas-là, il faut qu'ils s'adaptent au mode de vie en Norvège. Et en Norvège, on met un maillot de bain normal pour les petites filles quand elles apprennent à nager. On ne met pas un burkini.
Et pour les femmes ?
Pour les femmes, je ne suis pas allée m'aventurer dans les piscines.
Puisque vous donnez votre point de vue sur les petites filles.
Mais
c'est la suite logique, de toute façon.
Oui, mais je suis allée sur une plage à côté d'Oslo. Il y avait deux burkinis. Et apparemment, j'ai été la seule à trouver ça pas normal, bizarre.
Trop française, Vibeke.
Oui, sans doute, mais... Pour revenir sur la femme adulte, bien sûr, c'est une question alors là, plus longue pour trancher. Par contre, je serais quand même... je ferais un point de vue particulier sur la plage de Nice. Parce que c'est là qu'il y a eu l'attentat meurtrier et une ville traumatisée. Une ville complètement traumatisée. Et alors là, je trouve que les femmes et les hommes qui les amènent, parce que souvent, elles ne viennent pas seules, elles viennent avec leur mari ou leur frère ou leur père ou je ne sais pas quoi, sur cette plage à quelques mètres de l'endroit où les gens se sont fait massacrer. Alors là, je trouve que c'est une
provocation.
Une provocation pure et simple.
En fait, c'est...
Samira Ibrahim.
Je ne pense pas que ce soit une provocation. Je crois que c'est une inconscience. Il y a quelques jours, j'étais à Deauville et effectivement, j'ai vu, on n'est pas à Nice, évidemment, où il y a un passé lourd. On est tous traumatisés et encore plus les habitants de Nice. Mais j'étais à Deauville et j'ai vu des femmes, alors là, pas en burkini, mais habillées, tout habillées dans l'eau. Et c'est drôle parce que je crois qu'il y a une inconscience. Je crois que ces femmes ne suivent pas du tout l'actualité. Elles ne se rendent même pas compte
connectées en général.
Non, mais je vous assure. Non, parce que alors, vous savez qui est vraiment connecté, ce sont les Françaises de confession musulmane. Parce qu'aujourd'hui, à force de parler du burkini et à force de relayer finalement un problème qui est devenu politique, parce qu'on est, en train finalement de faire la communication de certains hommes politiques qui ne savent pas comment faire parler d'eux. Et c'est ce qu'on est en train de faire, malheureusement, mais bon, on fait aussi notre travail. Ces femmes-là, aujourd'hui, on est en train de radicaliser les gens. C'est-à-dire que tout le monde, on a tous peur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous dans
le même bain. Du moins de les stigmatiser, pour reprendre l'expression du président de la République.
Oui, en gros, c'est ça.
Et en même temps, ni stigmatisation.
Notre ennemi est le même. Je veux dire, Daesh, il ne fait pas la différence entre une femme voilée et une femme non voilée. À Nice, il y a beaucoup de gens
qui sont partis. Oui, mais là aussi, la question est plus large.
Et donc, on est tous dans le même sac. Et sauf qu'aujourd'hui, on est en train de... Tout le monde se radicalise parce que tout le monde a peur. Alors, quand on dit à une jeune femme, enlevez votre burkini, du coup, même sa copine musulmane qui ne porte pas de voile a... tout d'un coup, envie de porter un burkini, ce qui est ridicule.
Et quand on parle d'un musulman,
un Français moyen qui n'a jamais vu de musulman, il les diabolise, il pense que tout le monde est terroriste. Tous les musulmans sont terroristes.
Mais là, je pense qu'il y a deux aspects. D'une part, évidemment, ces femmes, elles sont victimisées aujourd'hui parce qu'elles sont stigmatisées, comme on le dit. Ça est devenu un discours politique qui distingue de quelque façon aussi la ligne que peut-être on va avoir pendant les élections qui s'approchent à grands pas en France, d'une part. Mais d'autre part, il y a la question aussi que c'est la soumission patriarcale. Et personne n'en parle de ça, en fait. Il y a des femmes, évidemment, comme les petites filles de 3-4 ans, qui subissent notamment une désignation qu'il faut que tu portes ça, parce que sinon tu vas provoquer un désir des hommes. Enfin, excusez-moi, mais à 4 ans, quand même, il faut avoir deux doigts de front pour penser ça. Mais d'autre part, en fait, les femmes en question... s'ils se portent elles-mêmes en tant que liberté totale de porter ces burkinis, ok, moi j'ai rien à dire et je ne peux pas parler pour ces femmes-là. Mais ce qui me dérange avant tout, c'est que la question du burkini aujourd'hui aussi, il pose aussi la question de la soumission de la femme. Et c'est là qu'il faut, il
vous
faut
combattre.
Vous pensez
à certains témoignages d'hommes qui disent « c'est une fierté pour moi d'avoir une épouse qui porte le burkini ».
Ah non, mais
vous pensez
à ça ? C'est une aberration mais monumentale de dire ça.
Certains le déclarent.
Oui, je suis bien d'accord.
Il y a beaucoup d'ignorance aussi. Et puis, en fait, ces femmes... Moi, je fais vraiment la différence entre ces petites filles et ces femmes qui décident. Et puis, moi, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez des femmes voilées ? Moi, j'en connais. Je connais pas de femmes qui portent le burkini, mais j'ai vu des femmes avant plongées dans la mer, tout habillées. Alors, entre un burkini et tout habillé,
des plages dans le monde arabe, et ceci dit, pour celle qui ne veut pas porter le burkini, la situation est compliquée.
C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Moi, ce que je trouve révoltant, c'est qu'en effet, quand on décide de porter le voile, j'imagine, en tout cas, je connais la religion musulmane, qu'à la rigueur, si on fait ce choix-là, on respecte les autres. C'est un choix personnel. Et c'est vrai que ce qui se passe sur les plages, c'est que souvent, quand on arrive en maillot de bain sur une plage
du monde arabe,
par exemple, et que les femmes sont voilées, à l'époque, le burkini existe depuis longtemps. Hein. Moi, j'en ai vu il y a très longtemps déjà. Ben, on vous regarde de travers et vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Elle porte son voile, elle a le droit de le porter, mais qu'elle ne m'embête pas. Moi,
mais ce qui est très intéressant,
c'est ça qui est embêtant.
Dans votre pays, en tout cas, de votre père, je crois, l'Égypte.
Le Soudan, c'est... le pays de mon père. L'Égypte
pour sa maman. Alors,
que et la maman. Liban,
pardon, pour la maman. Là, c'est très extraordinaire ce qui se passe. En Égypte, il y a des jeunes femmes qui
se dévoilent.
Se dévoile, oui. Exactement. Et c'est presque une sorte de mouvement. Oui. Et ces jeunes femmes-là, je les ai interviewées plusieurs fois, elles disent que les femmes en Occident, dans les démocraties occidentales, qui décident de porter le hijab pour montrer leur religion, etc., leur font un mal considérable.
Mais oui, mais parce que ça n'est pas leur culture. Le problème, c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, on est en train de surfer sur le burkini. Mais en vérité, le problème est beaucoup plus grave. Ce qu'on devrait se poser comme question, pourquoi une jeune fille née en France, qui a étudié en France, qui a vécu en France, aujourd'hui, à l'âge de 18-19 ans, ait envie de porter un voile ? Ça, ce n'est pas normal. Mmh. Et ça, c'est la question que les politiques doivent régler. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'habit, ce n'est pas leur culture. Qu'une femme en Égypte porte le voile, et on le sait d'ailleurs, je ne sais pas, je vous invite à regarder la trilogie, le documentaire de Jihan al-Tahri, elle parle des pharaons et on voit bien comment les sociétés ont été islamisées, mais parce qu'on a instrumentalisé la religion pour pouvoir gérer les gens. Et ces femmes l'ont compris en Égypte, elles ont voulu se libérer. Aujourd'hui en France, on ne l'a pas encore compris.
À la question, le burkini est-il un maillot de bain comparable au maillot couvrant anti-UV par exemple, puisque pour repenser à l'Australie, c'est là qu'est né le burkini, on va en parler dans quelques instants. À cette question, est-ce que le burkini est un maillot de bain ? Vous répondez quoi, vous, mesdames ?
Pas du tout. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que c'est
un signe
religieux.
Pas un maillot de bain pour vous ?
Non, moi, non.
Si, moi, pour moi, c'est un maillot de bain qui s'apparente plus à une tenue de plongée.
Et pour vous, c'est vrai que ça y ressemble. Mais pour moi, c'est pas un maillot de bain, c'est un vêtement que l'on met effectivement pour signaler quelque chose.
D'où ma deuxième question à vous trois. Le burkini est-il le symbole d'une idéologie au-delà d'un choix religieux intime ?
Je ne peux pas parler au nom de toutes les femmes qui le portent, mais d'après mon expérience personnelle, d'après ce que j'ai pu voir, c'est plus une tenue, vraiment. Mais le voile est une tenue, en fait. Le voile est même parfois un déguisement. Mmh. Et disons les choses, n'ayons pas peur. Mmh. Enfin, moi, je n'ai pas peur de le dire. Le voile, c'est un déguisement. C'est une façon aussi. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un imam très modéré en France. Et je déplore qu'on n'entende pas ces personnes qui ont une vision très ouverte de la religion. Et il me dit, mais il y a quelques jours, j'ai une jeune fille qui est venue, elle a 17 ans, et elle en pleure en me disant, mais je voudrais porter le voile, accompagnée de sa mère. Et mon père refuse. Alors, mais pourquoi ton père refuse ? Parce qu'il pense que je n'ai pas porté le voile à cet âge-là. Ah bon, mais pourquoi tu veux le porter ? Toutes mes copines le portent. Est-ce que c'est une bonne raison ? Est-ce que tu fais la prière ? Non. Commence peut-être par prier et une relation directe avec Dieu si tu es vraiment une musulmane.
Donc, le fond pour se démarquer des autres.
Voilà, la spiritualité est plus importante que l'habit. Donc l'habit est devenu un symbole qui ne veut rien dire.
Et pour vous,
fait.
Paola, alors, le burkini, symbole d'une idéologie au-delà d'un choix religieux intime ?
Maintenant, en t'écoutant, j'ai une avis un peu partagée. Moi, je pense qu'en effet, je pensais au d'abord que c'est un signe distinctif, notamment d'une religion. Et les gens, ils les portent à 17 ans, 18 ans, tout en sachant effectivement pourquoi on le porte. Après, je ne connais pas, encore une fois, je ne peux pas parler au nom des personnes qui le portent, parce que je ne connais pas des personnes voilées. Mais en même temps, je pense que si, à un certain âge adolescente, évidemment, les gens, effectivement, pour appartenir à ces groupes, ils le font aussi par mode, pour être accepté aussi dans un groupe, pourquoi pas. Et aussi, je pense aussi à un peu de provocation, en quelque sorte. Je pense qu'il y a tous les éléments. Oui. Je pense que dans l'effet de porter les voiles ou pas, il y a aussi ces trois éléments.
Moi, je trouve alors, que provocation ou symbole d'une idéologie ?
Pour moi, c'est une... Bon, pas toujours une provocation. C'est vrai qu'il peut y avoir quand même... Je suis un peu comme Samira, je ne connaît pas tant que ça de femmes musulmanes pour savoir ce qu'elles pensent ou pas de ce vêtement. Mais pour moi, par contre, c'est encore un nouvel épisode d'une série qui dure depuis longtemps.
Un nouvel épisode ou un degré supplémentaire ?
Ou peut-être un degré... Oui, mais enfin, on peut difficilement aller plus loin que le niqab ou...
Alors, dernière question, maintenant que vous avez répondu aux deux premières, le burkini est-il de nature à troubler l'ordre public ? C'est la question qui a été posée au Conseil d'État, finalement.
Bah, ça a été fait sur les plages cet été, puisque quand la police est venue à quelques reprises arrêter des femmes qui les portaient, c'est sûr que sur la plage...
Il y a eu une salve d'insultes, mais...
Oui, mais par contre...
Il n'y avait pas avant que la police n'arrive.
Oui, mais ce qui, par contre, est un... Enfin, c'est pas un faux, mais tout le monde a parlé de cette femme à Nice. Et là, il y avait même une vidéo qui montrait comment elle s'est fait arrêter, etc. Et tous les médias étrangers disaient qu'elle était en burkini. Elle n'était pas en burkini.
Elle était voilée, simplement.
Elle était voilée. Voilà. C'est sûr que les réactions en France, c'est une chose, mais les réactions à l'étranger ont été catastrophiques.
Moi, je distingue la plage et la piscine. La plage est un espace public. Oui. Mais oui, c'est un espace public. Si j'ai envie aujourd'hui de ne pas aller me baigner et que je reste en pantalon sur la plage, personne n'a le droit de venir. Si j'ai envie de me mettre en string et que j'ai le droit sur une certaine plage de me mettre en string, je me mets en string.
Même en
topless. Et donc, un burkini ou avoir une écharpe sur la tête ou un bandeau ou une casquette, je trouve ça un peu ridicule. Et je trouve que c'est irresponsable.
Ce qui est le cas dans certains pays où les gens ne veulent pas prendre le soleil, par exemple.
Exactement. J'étais en Asie cet été. Vous avez énormément de jeunes femmes chinoises et de Chinois qui portent des tenues de plongée pour aller à la piscine. Donc,
Par crainte des UV. Des rayonnements
solaires. Ils ne veulent pas bronzer. Énormément de raisons. Et je pense que c'est vraiment irresponsable de la part des personnalités politiques aujourd'hui de monter la sauce sur l'histoire des burkinis sur la plage. Alors, en plus,
c'est la sauce qui est de nature à troubler l'ordre public ou c'est le burkini lui-même ?
Non, mais moi, je pense que non, c'est pas le burkini parce que vous savez, vous avez toujours eu sur des plages des gens qui s'habillaient de manière différente. C'est comme si aujourd'hui, maintenant, on allait décréter.
Dans un pays qui est particulièrement victime du terrorisme, il faut quand même replacer le contexte international.
Tous les pays. Enfin, franchement, aujourd'hui, ça arrive en France. On est victime du terrorisme et ça nous fait mal et on est frappé de plein fouet. Ça fait des années que les pays arabes, les citoyens meurent sous les coups de terroristes. Enfin, ça nous touche de plus près parce qu'on l'a vécu. Mais enfin, les gens, les musulmans sont les premiers aussi touchés. Il faut le dire. Je dis que ça troublerait l'ordre public si Kim Kardashian, avec son corps de rêve et son fessier incroyable... c'est pas ça qui trouble l'ordre public. Ce qui trouble l'ordre public, c'est d'arriver, faire toute une histoire parce qu'une femme n'est même pas en burkini sur une plage, avec ses enfants, elle est humiliée. Enfin, ce n'est pas ça, la France. Moi, ce que j'aime de la France, c'est justement avoir cette liberté en faisant, 110 kilos et avoir la possibilité de porter un bikini ou de porter un pantalon et de rentrer dans l'eau. Je ne suis pas pour le burkini, mais c'est qu'à un moment donné, on peut pas... Ce n'est pas une piscine privée, ce n'est pas une école... Et puis, à un moment donné, il y en a combien qui portent le burkini ?
Je pense que c'est aussi un moyen d'instrumentaliser notamment la question de...
Je ne sais pas. Pour moi, c'est
petite minorité.
Oui, mais
n'est pas là.
C'est la première fois qu'on en parle autant. Bon, certes, parce qu'il y a eu les arrêtés, etc., etc. Mais je ne suis pas loin de penser que ce n'est pas un hasard.
Mesdames les tchatcheuses, vous restez avec nous, avec vos points de vue personnels. On devait parler aussi de l'origine du burkini qui a été créé au début des années 2000 en Australie. Mais on y reviendra une autre fois. On se retrouve juste après le flash avec d'autres sujets.
Découvrez
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines, bien sûr, avec le rendez-vous des tchatcheuses journalistes aujourd'hui. Trois regards féminins et très personnels sur l'actualité de votre choix, mesdames, et votre point de vue qui n'engage que vous, je le précise. Paola Martinez, Samira Ibrahim, Vibeke Knoop-Racheline. On a beaucoup débattu sur le burkini, évidemment, comment est-ce possible de passer le sujet sous silence. Paola Martinez Infante, on passe à un autre sujet, mais tout de même, le corps qui reste au centre des débats, le body shaming du maire de Londres, Sadiq Khan. Alors le body shaming, littéralement, ça veut dire les moqueries liées au physique, ça a toujours existé, on a tous connu ça dans notre enfance. Mais... les corps irréalistes sont désormais bannis du métro de Londres.
Ouais, je trouve que c'est une excellente initiative de la part de ces fraîchement élus maires de Londres. On connaît tous Londres. Enfin, je pense que la plupart d'entre nous, ils ont été là-bas. On sait que la publicité, elle envahit tout l'espace public, autant dans la rue, dans les métros, etc. Et lui, il a proposé déjà pendant sa campagne qu'il allait bannir toutes les publicités sexistes de transport en commun, autant du bus que du métro. Les gens, évidemment, c'était sceptiques au début, mais finalement c'est une arrêté qui a commencé en juillet pour effectivement bannir et combattre cette idée du corps parfait dans lequel il y a des jeunes filles en bikini, que c'est ça l'image du corps qui est véhiculé, surtout parce que il a
surtout en plus dans un pays où il y a quand même surtout des problèmes de surpoids en plus, donc évidemment ça fait pas de bien au moral.
Tout à fait, c'est une question aussi encore une fois de véhiculer cette image des femmes parfaites. Sans cellulite, sans rien du tout.
Alors, quand même, tout est parti de cette fameuse campagne de pub qui vantait un régime super protéiné et qui montrait une jeune femme en bikini avec le slogan, enfin avec la question « Are you beach body ready ?» C'était en juillet, c'était au moment des JO.
Vous êtes prêt pour aller à la plage avec une nana
donc,
qui était...
Donc, sous-entendu pour culpabiliser toutes celles qui ont quelques kilos en trop.
Et c'est là la question,
d'où déclenchement d'une pétition, 70 000 signatures, demande de retrait de la campagne, accusée d'être sexiste et de véhiculer l'image du corps impossible à atteindre pour les femmes. Donc maintenant, il n'y a plus d'affichage possible. Alors, c'est quand même très large, là,
du coup. Très large. Il faut faire attention quand même, parce que c'est vrai que la décision, en fait, elle concerne notamment le transport. C'est eux de gérer ou pas, c'est la mise en publicité de ces pubs sexistes, mais en même temps, il faut dire que la publicité dans le métro de Londres, c'est 12 000 publicités par an, et ça concerne qu'une petite partie.
Bon, ça veut dire que ça contentera en même temps un public qui n'aime pas voir des femmes en bikini.
Voilà,
ça veut dire que c'est pas un mauvais esprit.
Juste pour finir, c'est pas une question d'argent. Ça veut dire que la publicité apporte beaucoup d'argent, mais c'est symbolique en fait. Quelqu'un d'une mairie si importante comme Londres s'attaque notamment à cette publicité sexiste qu'on voit partout. Là notamment, quand je suis venue ici, je me suis un peu ouvert plus les yeux dans le métro que je prends rarement. Il n'y a pas à Paris, mais dans la rue, il y a énormément de publicité qui me dérange profondément, dans lesquelles on voit.
Qui vous dérange en tant que femme ?
En tant que femme !
Parce qu'il y a quoi ? Il y a une injonction au corps parfait.
Déjà, on voit qu'il y a des nénés et qu'il y a des nombrils parfaits partout. Je trouve que ce n'est pas du tout la réalité. Il faut dire ça. L'image qu'on donne, les messages qu'on donne aux petites filles, aux jeunes filles, aux adolescentes, d'être parfaites, ça n'existe pas.
C'est le coup de gueule de Paola. Et alors, la liberté de création, la liberté de la pub, de plus en plus entravée par le raz-de-marée du politiquement correct.
Non, mais c'est très intéressant. Parce qu'en Norvège, il y a eu une autre initiative cet été qui va dans le même sens. C'était pour les blogueuses, parce que les blogueuses ont une influence considérable sur les jeunes filles, et dans tous les blogs de jeunes femmes, elles expliquent « Ah, aujourd'hui, j'ai mangé une pomme, c'était un peu trop... »
Injonction à la minceur et risque d'anorexie mentale pour
donc,
les adolescentes.
Et donc, il y a quelqu'un qui a démarré une campagne pour ces blogueuses, qu'elles adhèrent à ces règles pour arrêter de montrer comment on fait pour maigrir, etc. Voilà. Et ne plus parler poids et ne plus parler corps dans ce sens-là. Et il y a plein de blogueuses qui l'ont souscrit. Et on le voit aussi, d'ailleurs, que dans les publicités, j'ai vu qu'il y avait une... Je ne sais plus quelle marque, mais enfin, on ne doit pas le dire de toute façon à la radio. Mais j'ai vu qu'il y avait une publicité pour une lingerie et il y avait deux actrices, je me souviens que d'une, c'était Lena Dunham, et on sait qu'elle n'est pas mince du tout, donc en sous-vêtements, c'était assez frappant.
Donc arrêtez de vendre du rêve et oui,
bon, on ferait mieux parler d'une alimentation saine à la place,
voilà,
peut-être.
Ça plus positif. Aimer son corps tant qu'il est comme il est, apprendre aux jeunes filles à s'aimer telles qu'ils sont, il n'y en a pas à vivre dans un mirage.
Il n'y a pas qu'un modèle de corps. Quoi. Il y a toute une diversité.
C'est ça qui est important en fait. Et là, cet arrêté ouvre justement cette voie dans l'espace public d'avoir une image qui est proche de la réalité. On est tellement tout le temps bombardé par la réalité.
C'est pas ça qui fera maigrir les Anglaises de toute façon.
Bien sûr que non, mais on s'en fout. Il faut parler des santé.
Il y a un problème de santé publique, quand même.
Évidemment, et pas
Il y a beaucoup d'anorexiques.
Samira Ibrahim, 8 présentatrices de la télévision égyptienne ont été privées d'antenne parce que jugées trop grosses.
Mais justement, ça
a fait un vrai débat sur les réseaux sociaux. La télévision publique égyptienne a suspendu 8 présentatrices à cause de leur surpoids.
Et oui, et là aussi, je ne sais pas en fait quoi penser. Encore une fois, je dis bravo à ceux qui arrivent à avoir une idée claire sur plein de sujets. Moi, je ne sais pas, entre chaud ou froid, je ne sais pas. Parce que quand on regarde les chaînes de télévision égyptiennes, on se dit, ah waouh, quand même, on est loin de ce que l'Égypte nous vendait. Moi, j'ai grandi avec les films en noir et blanc, avec limite des films hollywoodiens, quoi, les films égyptiens avec Omar Sharif, des belles toilettes, des femmes magnifiques.
Non, mais là, la réalité, d'ailleurs. C'est 75% des femmes en surpoids en Égypte. Donc voilà, c'est comme ça, point barre.
Donc c'est un problème de santé publique qui devient un problème de chaîne publique. Un problème de chaîne de télé publique. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, la télé égyptienne n'est plus du tout concurrentielle. Quand vous voyez les chaînes libanaises, les chaînes du Golfe, des chaînes généralistes avec de très belles filles qui sortent tout droit des magazines.
Donc discrimination à l'embauche dans ces chaînes libanaises que vous avez fréquentées, pour lesquelles vous avez travaillé.
Discrimination à l'embauche, mais le physique est très important. On choisit vraiment, et en général, on prend des jeunes femmes très blanche, avec la chevelure très noire. Enfin bon, Kylian dit ça. Et alors, si vous êtes blonde, vous avez gagné le gros lot. Là, vous êtes une reine de beauté.
Mais là, j'ai une question. Dans la polémique, qu'est-ce que ça ne va pas, en fait? Pourquoi ça ne va pas? Et parce qu'ils sont licenciés par leur poids ou parce qu'ils représentent quelque chose qui ne va pas dans le pays?
Alors là, il y a un vrai, disons que les chaînes de télévision veulent vraiment devenir concurrentielles. Et donc, il y a tout un problème parce qu'elles veulent se développer. Il y a un programme de développement. Et dans ce programme de développement, il s'agit aussi du look et de ce que représente l'image de la femme égyptienne. Okay. Et ces 8 égyptiennes, ces 8 présentatrices à qui on a demandé, on leur a donné un mois. Ça s'est passé au mois d'août. Ouais. C'est-à-dire que leur rentrée va être le 15 septembre.
Certaines ont dénoncé la brutalité de la décision. Elles ont un mois pour maigrir. Et la publicité surtout faite autour de ça. Il y a une vraie humiliation.
Elles ont senti qu'elles étaient humiliées, discriminées. Il y a aussi un problème de diffamation. Ouais, elles ont trouvé ça honteux et c'est normal. Honnêtement, on se met à leur place.
La question qui se pose, c'est est-ce qu'une présentatrice de télé a vocation à montrer l'exemple d'un corps sainement alimenté, pour revenir au problème de santé publique, ou est-ce qu'elle doit être à l'image des téléspectatrices, mère de famille
Là, c'est une question philosophique qu'on peut traiter.
Ou marketing.
Le marché est tellement rude et tellement impitoyable. C'est Dallas, là. Hein. Là, c'est vraiment, il faut exister. Et franchement, l'Égypte n'existe plus du tout à la télé. Vous zappez un peu, vous voyez les femmes sont mal habillées au niveau du style.
Vous les avez rhabillées pour l'hiver.
Mais c'est pas ça, c'est horrible. Mais c'est pas leur faute. Disons qu'on n'a rien fait pendant des années. Et là, le problème, c'est que la directrice de la chaîne est une femme. Donc elle dit impossible de discriminer puisque je suis une femme.
Or, rien
à
voir. Mince ou pas ?
Et que j'ai moi-même eu cette pression d'ailleurs quelques années auparavant. Puisqu'elle a elle-même dû.
Ce qu'elle dit elle-même, c'est que ces présentatrices ne ressemblent plus du tout à ce qu'elles étaient quand elles ont été recrutées. C'est compliqué, mais évidemment, et heureusement qu'elles ne ressemblent pas du tout à ce qu'elles étaient. Donc, elles ne sont pas du tout renvoyées. Elles ont un mois, mais qui peut maigrir en un mois? C'est très difficile.
Ça
a perturbé beaucoup de gens. Et le problème, c'est que tout le monde s'est défoulé sur Internet et les gens n'ont vraiment pas été sympas parce qu'ils étaient très durs avec ces présentatrices.
Vibeke, dans la série Micro-fracture de la société ou grosse fracture de la société, je ne sais pas, vous souhaitez revenir sur un singulier camp d'été décolonial qui s'est passé la semaine dernière à Reims. Il faut dire que dans la touffeur de l'été, le sujet est vite monté, y compris sur les réseaux sociaux. La LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, dénonce l'organisation de ce camp d'été décolonial réservé uniquement aux personnes subissant à titre personnel le racisme d'État en contexte français. C'était ce qu'on pouvait voir sur le site pouvoir s'inscrire à
peut-être
à cette réunion.
Un tout petit peu à l'intention. C'était prévu d'être un séminaire de formation pour des victimes du racisme d'État. Et par exemple, c'était surtout organisé par une association qui s'appelle Stop au contrôle faciès. Et c'est vrai que ce genre de problème...
Alors, le racisme d'État, ça a déjà quand même déclenché certaines réactions politiques qu'on peut comprendre.
Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, bon, c'est un tout petit peu vrai, peut-être, que ça ne touche pas souvent les Blancs. Bon.
Les contrôles aux
faciès. Mais de là à les exclure, c'est peut-être un petit peu exagéré aussi. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions, et le Front National voulait carrément l'interdire. Et
interdire cette réunion.
Oui.
Florian Philippot.
Je crois qu'ils n'ont pas réussi. J'ai pas réussi à trouver des suites de.
Alors
de,
nous aussi, on a cherché effectivement. Ouais. Enfin non, cette réunion de toute évidence a bien eu lieu puisque le maire de Reims a déploré qu'il ne pouvait pas l'interdire puisque la préfecture avait donné son feu vert. Comment vous avez.
Mais si vous permettez, je voudrais quand même dire qu'il y a une sorte de suite à cela avec une déclaration de Jean-Pierre Chevènement hier, puisqu'il a dit, et à propos de Saint-Denis, que 80% des enfants en primaire à l'école ne maîtrisaient pas le français et qu'il y avait 135 nationalités à Saint-Denis, mais une qui était presque disparue ou en tout cas en perte de vitesse.
Oui. Bon, alors là, c'est un tout autre débat, la
nomination
de Jean-Pierre Chevènement.
C'est du racisme
j'ai vraiment essayé de chercher à savoir si ce monsieur avait été visité Saint-Denis. Bon. Parce que c'est la question qu'on se pose. Je crois qu'aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on parle et on relaie beaucoup de faits qu'on ne maîtrise pas. Et on ne peut pas faire confiance comme ça à une actu, à un fait. Et le problème, c'est celui-ci. Quand les hommes politiques, et aujourd'hui, ils sont nombreux à le faire, s'emparent de questions qu'ils ne maîtrisent pas.
Mais c'est vrai que de toute façon, il y a, je ne sais pas si c'est une question de mimétisme ou quoi, il y a des Français blancs qui considèrent qu'ils sont victimes de temps en temps pour des faits inversés d'une certaine forme de racisme.
Bon, en tout cas, ce fameux camp d'été décolonial à Reims concernait une poignée de personnes, tout au plus.
180.
Voilà. Donc ça a été largement monté en épingle. Il nous reste quelques minutes, Paola Martinez. Qui est cette Michaela qui fascine les internautes sur Instagram?
Ça, c'est mon coup d'interrogation, encore une fois, parce qu'il y a toujours un coup de gueule. Et là, je m'interroge, en fait. Je regarde, je trouve que cette fille s'appelle... C'est une it girl. Enfin, ces femmes qui sont
avec
assez
connues.
Avec un
prénom latino, ça.
Avec un nom, voilà, latino. C'est une sorte de créature numérique, on peut dire. Une sorte d'avatar assez réaliste qui semble incarner les rôles d'une femme, d'une jeune fille, mannequin, actrice, qui veut se développer dans ces milieux-là. Enfin, le fait qu'il soit irréel, un avatar ou pas, ça ne me dérange pas du tout parce que tous les réseaux...
Elle est suivie par 60 000 personnes sur Instagram.
Voilà, et c'est là la question, Emmanuel. J'ai trouvé que c'est aberrant, en fait, des gens qui s'intéressent, en fait, à la vie de quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Après, on peut se poser la question de quelle façon... Enfin, soit il y a plusieurs hypothèses, c'est ce qui est assez étonnant parce que j'ai regardé les photos qu'elle postait.
Donc ça s'appelle la crétinerie humaine, c'est ce que vous voulez nous dire.
La crétinerie humaine, mais à l'échelle mondiale. Et une part, en fait, il y a deux possibilités. Soit c'est effectivement quelqu'un qui est une vraie personne, qui s'est fait, disons, numériser, donc il pose sa vie comme ça. Ou c'est une expérience aussi de quelqu'un, une artiste, pour un peu voir où
il y a derrière quelqu'un qui pose des photos, et du texte, en tout cas.
Tout à fait. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'année dernière, par exemple, il y avait une artiste artiste argentine qui a fait un peu la même expérience. Il s'est inventé une vie complètement fictive sur Internet, sur Instagram et les réseaux sociaux. Tout le monde l'ont flashé sur le truc. Ils répondaient, ils s'insultaient, parce que c'est ça ce qu'ils font les gens sur Internet. Ils s'insultent, ils disent oui, j'aime pas, enfin bref. Mais là, la question en fait, là, que je me pose, c'est de combien il est facile aujourd'hui de manipuler les gens. Combien il est facile de, à travers un téléphone, les gens greffer leur portable à la main, font tout n'importe quoi.
Vous, Paola, qui voulez interdire toutes les publicités de femmes en bikini trop bien foutues dans le métro, est-ce qu'il faut interdire Michaela, susceptible de créer des complexes corporels chez les internautes?
Je pense qu'encore une fois, je ne vais pas non plus me faire la gourou du truc, mais je pense que c'est une question d'éducation, en fait. Et là, il faut faire super attention à tout ce qu'on voit sur Internet. Et encore une fois, la graine, en fait, nos enfants, parce que moi, j'ai
éduquer
deux enfants.
Éduquer vos adolescents.
Éduquer nos adolescents et dire, écoutez, là, quelle est la partie virtuelle et réelle.
C'était la même idée dans un très beau film. Malheureusement, je ne me souviens plus du titre, mais c'était un film qui est sorti l'année dernière, où un homme est tombé amoureux.
Il y a le poursuite, là, il faut qu'on trouve tout de suite.
Oui, genre, et non, mais un homme est tombé amoureux d'une voix.
Ah, Her.
Voilà.
Avec Scarlett Johansson et Phoenix, tu sais.
Oh, ça. Elle est trop forte, Paola.
Ouais. Je me souviens bien. Et en plus, justement, et là, on voit la dérive des le monde virtuel.
C'est ça.
Il y a le Pokémon cet été. Moi, je voyais énormément du monde dans la plage. À la place de regarder la mer magnifique qui nous versait tout son écume magnifique. Ils étaient en train de chasser des Pokémon. Enfin,
bon,
tout ça
et bien, justement,
incroyable.
Vous ne croyez pas si bien dire. Donc, j'ai compris que vous connaissiez, mais je ne sais pas si vous jouez aux Pokémon. Non, Paola, j'ai compris.
J'ai plein de gens qui jouent.
Petite aversion. En tout cas, après toutes les bonnes nouvelles de la rentrée et tous ces grands débats, une petite récré, une petite chasse aux Pokémon. On va tout oublier pour jouer. Enfin, ça sera juste après. Hey Man Shaker. Seneca. Now, say another babe. Got your sex appeal. Coming down so sweet. Mama, got me on my top piece. Then letter word, hey moon shaker, ça vous plaît, les filles?
Ouais, pas mal.
À quelques jours de la rentrée scolaire en France, les enseignants s'inquiètent de voir envahir les salles de classe 2 mois après son lancement officiel. D'ailleurs, le jeu Pokémon Go, qui certes a perdu quelques joueurs pendant l'été, mais qui, enfin, avec la rentrée plutôt, mais ils sont encore tout de même une trentaine de millions dans le monde à jouer au Pokémon Go, armés de leur smartphone, vous le disiez, Paola, même sur la plage, au lieu de regarder la mer, qui affiche une carte interactive du quartier que l'on traverse, et puis bien sûr les Pokémon à capturer, ces créatures imaginaires qui ont été créées tout de même il y a 20 ans maintenant au Japon. Charlie Dupiot, notre reporter, s'est rendu au parc de la Villette, alors il faut dire qu'il n'y avait pas la mer aussi, au nord-est de Paris, devenu leur repère de joueurs venus de toute la région parisienne.
Vas-y, lance. C'est parti. Hey, un Lipoutou.
C'est Lipoutou.
Il y a un Lipoutou.
C'est un Pokémon ?
Ouais,
c'est un Pokémon.
Tout le monde qui a là, c'est pour Pokémon, hein, ça c'est sûr. Tous ceux qui sont sur leur téléphone, petits, grands, âgés, enfants, ados, tout le monde joue à Pokémon.
Regardez, ils sont tous assis, il n'y en a pas un qui parle.
Mais des fois, il y a des mouvements de foule quand il y a un Pokémon un peu spécial qui sort. C'est impressionnant, c'est même inquiétant. Parce que les Pokémon, ils apparaissent pendant une certaine durée. 15 minutes, je crois.
Il faut les attraper avant qu'ils ne disparaissent.
Voilà, exactement. Mais d'habitude, le parc, il ferme à 1h, je crois. Et la dernière fois que j'étais venu avec mes potes, ça a fermé, ça ferme même plus tellement il y a de monde. Ils peuvent même plus nous sortir du parc.
Nous, on veut le 77, Seine-et-Marne.
Donc c'est en banlieue parisienne.
Banlieue parisienne, voilà. Ouais, on a pour une heure de transport, quoi.
Ça fait loin, quand même. Hein.
Et chez vous, dans votre commune de Seine-et-Marne, il n'y a pas de Pokémon ?
Il y en a, mais vraiment pas comme ici. Par exemple, on a un Pokéstop toutes les 20 minutes.
De marche ?
Voilà.
Les Pokéstops, ce sont des endroits physiques où on peut attraper des outils qui nous permettent d'attraper des Pokémon.
C'est ça.
Dans la banlieue, il n'y a pas grand-chose. Les gens qui habitent dans la banlieue doivent se déplacer pour venir chercher plein de Pokémon et en trouver. Là, ça fait 3 jours d'affilée qu'on vient ici. On l'aurait jamais fait avant.
Bonjour, alors là, vous, je vous vois courir. Vous avez aussi votre smartphone.
Voilà. Et on poursuit, là, c'est les bulles bizarres.
Ouais, c'est bizarre.
Donc, moi, j'ai plus beaucoup de batterie. Je suis mon fils.
C'est lui qui vous a initié ?
Tout à fait. Et je m'amuse. Il est là, Julien.
Je l'ai trouvé.
Donc là, c'est le bulle bizarre que vous capturez.
Alors, j'ai essayé de viser.
Vous faites glisser le doigt sur l'écran de votre smartphone.
Très, hop. Ah ben non, là, il s'est échappé.
Ah, vous l'avez raté. Vous n'êtes pas encore une experte.
Non, je ne suis pas une experte, pas du tout. J'ai un petit niveau, moi, j'ai un niveau 8.
Et si c'est pas indiscret, vous avez quel âge ?
J'ai 60 ans. Ça me rappelle mon enfance, quoi, la chasse au trésor, un petit peu. Et puis, peut-être d'être dans son temps, de ne pas passer à côté de quelque chose. Bon, il y a l'époque Pokémon Go. C'est plus tard, mes petits-enfants, je pourrais dire, avec votre père, voilà, je jouais à ça aussi, j'ai fait. Peut-être jouer avec eux aussi, je ne sais pas. Enfin, il y a une époque où on parle de choses tellement compliquées.
Au moment des attentats.
Voilà, là c'est mon espace, j'oublie, je joue.
Bonjour.
Bonjour.
Je vois que vous jouez à Pokémon Go, vous aussi.
Bon, étant donné que j'habite en banlieue et qu'il n'y a rien, il n'y a pas spécialement de bar, il n'y a rien. Ça permet de bouger de sa banlieue, quoi. Par contre, il y a des gens qui sont anti-Pokémon et j'entends des dialogues, mais c'est les gamins qui doivent jouer à ça. Alors moi qui suis à côté, alors, effectivement avec mes 42 ans, quand on les écoute, on est des débiles.
Bonjour, Amine, dresseur de Pokémon. Je viens moi-même des Yvelines aussi. J'ai fait tout ce voyage au parc de la Villette pour attraper des Pokémon aussi. Là, pour l'instant, je travaille aussi en tant que postier.
Vous avez un petit sac, une petite pochette
Là, avec un chargeur externe que je branche de temps en temps pour ne pas tomber en rade de batterie. Il y en a, ils ont pris leur sac à dos, leur gourde, leur casse-croûte, leurs chaussures de marche, tout l'attirail nécessaire pour chasser du Pokémon. Moi, quand j'étais petit, j'étais un grand fan de Pokémon. J'y jouais, mais à longueur de journée, j'avais une Game Boy aussi. Pour beaucoup, j'y joue en fait parce que je suis nostalgique de cette époque-là. Ça me remet dans mes 8 ans, tu sais, à l'époque où il n'y avait pas de problème, à l'époque où il n'y a pas de responsabilité, où on pensait à rien. C'est un petit peu ça aussi, quelque part.
Vous veniez souvent à Paris avant ?
On allait quoi ? Aller de temps en temps, on va aller à Châtelet, un truc comme ça, pour faire les boutiques. Maintenant, on est là, on va se parler, on va voir des parcs, on va au Champ de Mars, on va. Je suis parti au Louvre aussi la dernière fois, j'ai visité un petit peu grâce à Pokémon.
Voilà, reporter signé Charlie Dupio. Dommage les voisins que vous n'ayez pas entendu tous les commentaires des tchatcheuses dans le studio avec Vibeke, notre tchatcheuse norvégienne, qui nous dit « Mais voilà le nouveau plan banlieue du gouvernement, financé par le Japon. »
Pourquoi pas ? Non, d'abord, je trouve que c'est scandaleux qu'on ne trouve rien en banlieue. Et deuxièmement, finalement, ça a peut-être quelque part un peu de bon, dans le sens où ça oblige les gens à sortir,
C'est un jeu commercial, donc évidemment,
la
chasse mène là où il y a le plus de trafic, finalement.
Moi, j'étais justement en colère tout à l'heure.
Oui, toutes les trois, je les ai vues très énervées, toutes les trois.
De cette démarche très virtuelle, encore une fois.
Justement, c'est la fin du virtuel complet, avec la solitude totale dans sa chambre, les ados qui sortent plus de leur écran. Au contraire.
Les gens sortent de chez eux, ils marchent, donc c'est plutôt un jeu très actif.
Parce que vous avez dit pendant tout le reportage, c'est crétin.
Je trouve que c'est crétin, mais c'est une crétinerie active.
moi, j'avoue que j'ai changé d'idée.
Pendant le reportage.
Le reportage, parce qu'au début, quand j'ai entendu la personne dire « Ah bah oui, ça aurait été dommage de passer à côté », j'ai dit « Ah bah oui, dommage, à côté, on pourrait être volontaire, faire de l'humanitaire, aider les gens et tout ». Et finalement, oui, bon, si les gens se retrouvent, sortent, là, un monsieur qui disait qu'il n'avait rien à faire, faire en banlieue. Mais bon, ce qui serait bien, c'est que, voilà, pourquoi pas aller dans une maison de retraite, chercher les personnes âgées qui sont seules, faire le jeu avec d'autres personnes, mais pas rester dans son coin. Pourquoi
mais
pas
c'est, si mais c'est ce qui se passe.
Heureux, oui, c'est bien.
En partie, non
si, en Norvège, il y a une personne pourquoi qui pas reste rarement dans son coin toute seule. C'est le Premier ministre qui joue au Pokémon de façon ardue. Elle a participé à une réunion il y a quelques jours à Prague et elle était là à chasser le Pokémon.
Et qu'est-ce que vous sous-entendez sur votre Premier ministre alors ? Elle a un problème ?
Non, mais premièrement, je trouve que c'est quand même intéressant qu'elle se laisse filmer et prendre en photo en faisant ça. Alors, pour moi, je pense qu'il y a un petit peu de sous-endu politique, justement.
C'est que,
voilà, elle veut montrer qu'elle est comme les jeunes,
qu'elle est proche de...
Elle est dans le coup. Voilà, voilà, elle est dans le coup.
Donc, vous suggérez ça
à François Hollande, bah, peut-être pour booster sa cote de popularité.
Non, il n'a pas le temps, là. Franchement, François Hollande, non, il faut qu'il bosse.
Peut-être Macron,
qui vient de démissionner. Il
va peut-être avoir plus de temps, Emmanuel Macron. Bon, donc finalement, vous étiez parti avec de très mauvais sentiments à l'égard de ce jeu.
Moi, je suis partagée maintenant.
Ouais, j'avoue.
Que vous avez connu jeune ou non, vous êtes, non.
Pikachu, si,
Pokémon,
oui, par contre,
oui,
mon
oui,
frère.
Bien sûr. Mais bon, enfin, je sais pas, j'ai jamais vraiment été attirée. Je pense qu'on a tellement de choses à faire dans la vraie vie. Donc voilà, c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme Instagram, souvent. J'ai besoin de digérer ce que je vis avant de pouvoir partager et avec les autres.
Vite, et encore, oui, mais ça fait du bien de s'évader
un
peu.
Sympa, sympa.
D'ailleurs, si on avait eu un tout petit peu plus de temps dans l'émission, on aurait parlé d'une fameuse BD dont vous vouliez nous parler, Samira Ibrahim, Disparate Blédard, qui cartonne sur les réseaux sociaux.
Oui, plus de 250 000 personnes les suivent. Suivent Mayada et Maïssa, deux jeunes filles de banlieue, très fortement inspirées par le feuilleton Desperate Housewives. Et qui ont fait Desperate Blédard. C'est une bande dessinée très drôle. Elle parle de tout.
On va mettre le lien sur la page. Les chatcheuses, vous revenez quand vous voulez. Merci à vous, Paola Martinez, Samira Ibrahim, Vibeke Knoprachlin. Merci à toute l'équipe, Éléonore Crény, Camille Néran, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des parents. Ils jouent un rôle déterminant, on le sait, dans la réussite de leurs enfants. Mais n'ont-ils pas trop de pression ? Comment refuser la pression sans toutefois fuir ses responsabilités? Je vois le visage grave.
Excellent sujet, j'aimerais que tu me le dises.
Un numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous dès maintenant. À demain. Découvrez Visa.